Salut et bienvenue sur le podcast de Mums Collective où nous célébrons la beauté de la maternité et rendons à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Je m'appelle Johanna Arnius, j'espère participer au changement de paradigme autour de la naissance et de la maternité en vous partageant des témoignages d'enfantement libre, à la maison, respecté, pour que chacune puisse trouver le courage et la confiance de choisir ce qui est bon pour elle et ses enfants. Je suis heureuse aussi de vous annoncer que la communauté de Mums Collective dont je vous parlais au début du dernier épisode a ouvert ses portes. Si vous voulez approfondir ce grand sujet de la naissance libre, de la souveraineté et de l'intuition, rejoignez-nous. J'ai la joie de vous partager aujourd'hui le témoignage de Fanny, une Française en Australie qui nous raconte la naissance à la maison de son premier enfant, entourée de son mari, de sa doula et d'une sage-femme comme on en connaît. Son bébé est arrivé en siège par surprise, si l'on peut dire. Une naissance qui l'a faite se sentir puissante, comme devrait pouvoir l'expérimenter chaque femme. Fanny évoque aussi les difficultés du postpartum, nous rappelant une fois de plus qu'enfantement et postpartum devraient être inséparables dans la manière dont nous les entourons. Bonne écoute! Salut Fanny, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast. Tu es avec nous en direct d'Australie, de Brisbane. Donc on a un petit décalage horaire. Et tu vas nous raconter ton parcours et ton cheminement pour donner naissance à ta fille, à ton premier bébé à la maison.
Oui, bonjour Johanna. Donc je m'appelle Fanny. J'habite en Australie donc depuis 9 ans et j'ai une petite fille qui a bientôt 7 mois qui s'appelle Cassidy et donc qui est née à la maison chez nous en présence d'une doula et d'une sage-femme.
Tu me disais, donc on a discuté un peu avant, tu me disais que autour de toi c'est quelque chose, on te prend pour une folle et que c'est pas quelque chose du tout de courant. Alors
ah ben oui, effectivement. Donc moi j'ai grandi en France et en France ce que je connais de l'accouchement autour de moi, c'est on va à l'hôpital, on fait une péridurale et on a notre bébé et puis voilà. Moi, même avant de tomber enceinte, j'ai commencé à questionner cette manière de faire puisque dans ma tête, j'ai jamais vraiment passé de séjour à l'hôpital dans ma vie et pour moi, l'hôpital, c'est quand on est malade. Et accoucher, pour moi, l'accouchement, c'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément d'intervention médicale. Donc, dans ma tête, bien sûr, je sais que certains accouchements ont besoin de la médecine, mais pour moi, la plupart ne devraient pas en avoir besoin. Et je pensais bien, au plus profond de moi, que c'était pas quelque chose que je voulais. Et du coup, en creusant un petit peu, bien sûr, on entend parler de violence obstétricale et ce genre de choses. Et bon, et ça, du coup, ça m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas avoir à combattre. Et moi, je voulais vraiment une naissance physiologique. Et aller à l'hôpital, déjà, c'est interrompre ce processus quelque part. Et je n'avais pas envie d'avoir à me battre pour mes choix en étant vulnérable. Quand on est en travail, on est extrêmement vulnérable et c'est vraiment peut-être le pire moment d'avoir pour se battre et avoir ce qu'on veut. Donc du coup, moi, je me suis orientée à l'origine vers une maison de naissance, puisque du coup, le papa très nerveux, premier enfant, forcément, c'est pas ce qui nous attend. Le papa, quand j'étais enceinte, du coup, on discutait et il disait bien, en rigolant, tant que tu ne m'accouches pas à la maison, tu fais ce que tu veux. Ce à quoi je me suis irritée. À l'époque, je ne voulais pas du tout accoucher à la maison, ce n'était pas du tout dans mes projets. Je pensais que c'était un truc de hippie, entre guillemets. Et puis d'ailleurs, Matt, mon mari, m'a rappelé que, en fait, je suis un peu hippie. Je lui ai dit, ok, très bien, alors on va continuer. Continuer comme ça. Et je lui ai dit à ce moment-là, écoute, premièrement, c'est pas toi qui vas me dire ce que je fais ou ce que je fais pas, c'est moi qui accouche. Donc j'ai annoncé la couleur directement. Et à ce moment-là, peut-être que justement, lui me dit, en me disant qu'il ne voulait pas que j'accouche à la maison, il a planté une graine quelque part. Il m'a dit, ah, je me suis dit, peut-être que ah, c'est peut-être possible quand même. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la maison de naissance, il y en a une seule à Brisbane. Et moi, je suis pas citoyenne en Australie. Et du coup, j'ai pas eu accès à la maison de naissance parce que ben, à cause de mon visa, en fait. Et il a fallu que je postule pour une résidence permanente pour pouvoir avoir une carte de sécurité sociale australienne. Et le temps que ça se fasse, c'était trop tard et j'ai été mise sur la liste d'attente et avec pas de promesse d'être acceptée en maison de naissance au moment où je vais devoir accoucher. Donc, c'est à ce moment-là, j'étais déjà en contact avec Michel Palladia, une doula. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu as considéré une naissance à la maison, peut-être, mais juste gentiment, juste en passant, en disant ce que tu as pensé. Et puis, du coup, c'est là que j'y ai dit, bon, mon mari, il est quand même un peu stressé de ça, ça l'angoissait, ça l'angoissait, il est vraiment ça. Ça lui faisait peur. Sauf que moi, c'était l'hôpital qui me faisait peur. Donc, quand le projet de naître à la maison de naissance bah, est tombé à l'eau, entre guillemets, on était en liste d'attente, on attendait quoi, un coup de fil pour dire bah, vous avez une place, vous n'avez pas une place. Mais bon, moi, je ne comptais pas dessus. Je m'étais dit, bon, ben, bon, il n'y a pas le choix, hein, on va à l'hôpital. Hein. Et je commençais à dire oh, ben, j'espère qu'elle va arriver vite et que ben, je n'ai pas le temps d'y aller, quoi. Donc dans ma tête, j'étais en train de me dire, alors si je tiens le coup à la maison et que ça se passe bien, on n'y va pas quoi. Vraiment, le danger, c'était pas accoucher pour moi, c'était l'hôpital. Donc c'est comme ça que j'ai décidé que ben, de voir si j'arrivais à trouver une sage-femme. Donc le problème, c'est que à partir de ce moment-là, c'était le Covid a commencé à s'installer et que ben, les sages-femmes commençaient à être de plus en plus prises puisque les gens se sont dit, ben, avec le Covid, il y a eu de plus en plus d'accouchements à la maison ou de gens qui considéraient l'accouchement à la maison. Mais je suis passée juste avant la reconnaissance d'accouchement à la maison en Australie et dans les cercles que je côtoie sur les réseaux sociaux, il y a une sage-femme qui a posté sur Instagram disant, bon, on a des disponibilités vraiment restreintes, mais il nous reste une place pour juin. Et moi, j'ai vu ça et j'ai dit, bon, alors, si ça, c'est pas un signe, je l'ai appelée, je l'ai vue la semaine qui a suivi, je l'ai bookée pour mon accouchement. Elle est venue à la maison, elle a discuté avec nous, elle nous a expliqué comment elle fonctionnait, ses valeurs. Matt a pu poser ses questions. Et quand elle est partie, je l'ai regardée, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a fait, pas de problème, c'est bon. Je me sens à l'aise, on fait comme ça. Donc c'est comme ça que on a commencé à planifier notre petit accouchement à la maison et j'étais enceinte de 30 semaines déjà.
Oui, c'était déjà.
Donc, oui. J'étais enceinte de 30 semaines. Et jusqu'à là, j'avais fait un suivi. J'étais pas du tout allée à l'hôpital pour faire le suivi. En Australie, en fait, on a le choix de faire un suivi sage-femme, médecin généraliste. Je ne sais pas si ça se fait en France. Et donc, moi, j'avais fait mes visites au médecin généraliste qui me faisait les trucs normaux. Palper un peu le ventre, vérifier la tension, me donner les ordonnances pour aller faire les prises de sang quand ils veulent les faire. Et du coup, je me suis arrêtée. J'ai arrêté quand je suis allée voir mon médecin généraliste en lui disant, bon, alors, on va plus à l'hôpital, on va faire un accouchement à la maison. Elle m'a sorti une tête de 3 pieds de long. J'ai fait, bon, alors, c'est pas ici que je vais avoir le support, on reviendra plus. Et je suis plus retournée.
T'as arrêté ton suivi médical à ce moment-là?
Bah, du coup, j'ai continué de voir ma sage-femme. Ma sage-femme, qui. Voilà, après, j'ai fait Donc, au niveau médical, j'ai fait des prises de sang pour contrôler mon niveau de fer parce que j'ai une petite tendance, j'ai le fer qui était un peu bas. Donc, on a surveillé ça. Le diabète gestationnel, j'ai pas fait le test long où il faut boire
Le poison.
du glucose. Voilà, j'ai pas du tout fait ça. Elle m'a expliqué, elle m'a expliqué mes options. Elle m'a dit qu'on pouvait faire une prise de sang le matin à jeun et que ça nous donnerait une donnée et qu'à partir de là, si c'est pas dans la norme, on peut faire un test à la maison où je peux vérifier mon sucre moi-même, comme les diabétiques, en fait, tu cliques le doigt et tu mesures. Et que elle m'a présenté la recherche, elle m'a orienté sur des lectures, et du coup, j'ai pris ma décision, disant, on va faire le test à jeun, et moi, je fais pas ce truc-là. J'ai pas envie. J'ai fait ça, le résultat est revenu normal, donc j'ai vraiment pas. J'ai rien fait d'autre. Et vu que ma grossesse était normale, sans complications, j'ai pas fait d'échographie au troisième trimestre non plus. Juste d'examen à la palpation, et tout allait bien. Vraiment aucun souci. Donc, et la sage-femme, du coup, qui s'occupait de moi, est vraiment axée naissance physiologique, c'est son truc. Elle me disait que la grande majorité des naissances dont elle s'occupe, elle est assise dans un coin, elle attend que ça se passe. Donc, elle fait pas d'examen vaginal, elle fait pas de. Elle attend. Donc, elle a son Doppler, elle a son petit Doppler, elle vérifie le cœur régulièrement. Et puis c'est tout. Si tout se passe normalement, tout se passe bien, elle n'intervient pas du tout, en fait. Et du coup, ben, moi, c'était exactement ce que je voulais. Donc, je suis vraiment tombée sur une sage-femme, sans chercher, en plus, il y avait des valeurs qui correspondaient exactement à ce que je voulais. Donc voilà, donc ça c'est comment j'en suis arrivée
Ouais.
à faire un accouchement à la maison. Donc j'ai eu ma doula en plus que je voyais régulièrement pendant ma grossesse, qui m'a vraiment accompagnée dans ce cheminement de maison de naissance à l'hôpital. La naissance à la maison, elle nous a vraiment accompagnés en fait, parce que les conversations, quand on a fait la transition de hôpital à accouchement à la maison, il y a eu des grosses tensions avec mon mari, et vraiment, elle nous a aidés à en discuter, à faire notre chemin, tout en douceur, sans jamais imposer ses opinions, parce que je suis sûre qu'elle en a des opinions, mais vraiment, elle nous a jamais laissé transparaître quoi que ce soit, vraiment, tout en douceur, l'accompagnement, etc. Après, pour la petite histoire, moi, j'ai perdu ma maman 6 mois avant de tomber enceinte, et elle avait commencé, on savait qu'on allait avoir un enfant souvent, et elle me disait, moi je vais en Australie, elle allait être là pour l'accouchement, elle avait pas pour projet de rester pendant quelques mois pour nous aider, tout ça. J'étais très très proche d'elle. Et vraiment, bah, du coup, elle est décédée fin avril. Et je suis tombée enceinte début septembre. Et vraiment, Michelle, elle a été cette présence maternelle dans ma grossesse et dans mon accouchement. Et même après, même si bah, elle n'a pas été aussi présente que ma mère l'aurait été, puisque bien sûr, elle ne peut pas être là 24 heures sur 24, c'est dommage d'ailleurs, mais vraiment, ça a été génial de l'avoir à mes côtés pendant tout ce temps. Et pendant l'accouchement aussi, elle a vraiment. Je lui ai broyé la main comme à celle de mon mari, celle qui a nettoyé les jambes après. Enfin, vraiment, je recommande à tout le monde d'avoir, de prendre une doula ou un birthkeeper, comme on les appelle aussi. Ou c'est pas exactement la même chose. Enfin, ça dépend des besoins et du ressenti aussi. C'est vraiment... C'est plus avec un ressenti avec une personne qu'un titre, en fait. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne.
Et quand d'ailleurs t'avais... Parce que c'est peut-être plus courant en Australie qu'en France d'avoir une doula, mais je pense pas non plus que ce soit la norme.
Ah, je pense pas du tout. En fait, moi, je savais pas ce que c'était une doula 6 mois avant de tomber enceinte. Et les gens autour de moi ne savent pas ce que c'est une doula non plus. Après, moi, maintenant... grâce aux réseaux sociaux, je me suis créé une bulle où vraiment les doulas c'est normal, les accouchements à la maison c'est normal. Donc vraiment ça me donne un peu une image distordue de la réalité des naissances, parce que dans mon feed, dans ma bulle des réseaux sociaux, pour moi accouchement à la maison c'est normal, avoir une doula c'est normal.
Et puis, donc comment t'avais découvert les doulas? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir comment t'as découvert Michelle?
Donc moi je suivais un compte Instagram, le compte de January Archer, qui justement qui est aux États-Unis et qui se bat entre guillemets, enfin oui, pour que les femmes aient le choix. Et le choix d'avoir l'enfant comme elles le désirent, comme elles le veulent. Et je sais pas, j'ai dû trouver son compte par hasard quand je commençais à m'intéresser à la grossesse, et à l'accouchement du coup. Et de fil en aiguille, elle a fait une conférence à Brisbane et j'ai décidé d'y aller. Et c'est là que j'ai découvert tout un nouveau monde, que des doulas ça existait, que l'hypnobirthing, ça existait. Donc, j'ai fait ma préparation à la naissance que j'ai faite. Je n'ai pas fait du tout une préparation à naissance à l'hôpital ou quoi que ce soit. J'ai fait une préparation à naissance en hypnobirthing où vraiment, c'était... les choses étaient expliquées. Il n'y avait vraiment pas de... Ils n'essayaient pas de te faire peur, quoi. Parce que moi, le feedback que j'ai eu des gens qui ont fait des... la préparation à l'essence à l'hôpital, c'est que tu sors de là, t'as peur, quoi. T'as peur de l'accouchement, t'as peur de mourir, t'as peur que ton bébé meure, et puis à partir de là, ils font faire ce qu'ils veulent, puisque t'as peur.
Comme quand t'as vu Baby Boom, l'émission.
Ah ouais, mais j'adorais cette émission en plus, moi. Donc du coup, tu imagines bien les idées préconçues que j'avais, puisque moi, pour moi, c'était le normal, Baby Boom. Hein. J'adorais cette émission, je l'aurais toujours regardée. Alors, mais je pense que si je la regarde maintenant, je fais une crise cardiaque. Hein. c'est vraiment... c'est choquant maintenant pour moi de voir toutes ces interventions. Et des fois, comme les mères sont traitées aussi, la pression qu'on leur met.
La figure de sauveur des équipes.
Voilà, c'est ça.
Ce sont les professionnels des héros et pas les mères. Enfin, oui.
Voilà, c'est ça, ouais. Et je me souviens d'ailleurs, j'étais encore enceinte, du coup. J'ai vu un autre docteur, le docteur de mon mari, en fait. Du coup, j'étais là avec lui. Parce que je me suis dit, bon, mon docteur, il me convient pas et je veux pas amener mon bébé là-bas, puisque elle m'a regardé de travers quand j'ai dit que je voulais accoucher à la maison. Ça m'a pas plu, j'ai dit bon, je vais en rejoindre un autre. Parce que j'ai appris au fur et à mesure du temps, justement, s'il y a un médecin qui ne convient pas, il faut changer. Si on n'est pas coincé, on a le choix. Et ça, c'était tout nouveau pour moi, j'ai découvert ça récemment, parce que voilà, c'est. Être son propre avocat, on dit ça en français aussi. la médecin a dit, ah oui, moi j'ai accouché des bébés il y a quelques années de ça. Toi, tu as accouché, d'accord, non, donc non. Non, c'est pas toi qui les accouches les bébés, c'est les mères. Donc toi, c'est non aussi. Alors, on s'en va, on va trouver un autre docteur. Hein. Le vocabulaire, vraiment, mais il y a tout qui a commencé à. Je voyais tout en fait. Tout dès que j'entendais quelqu'un faire raconter son accouchement, j'étais. Je voyais comment ils avaient été manipulés, comment on leur avait fait peur et voilà, ça. Ma vision de la naissance, elle a changé complètement depuis avant jusqu'à l'accouchement. Mais je suis très contente d'avoir commencé à me renseigner et avant de tomber enceinte, parce que c'est vrai que si on commence à se pencher sur la question après être tombée enceinte, bah, c'est vite fait d'écouter les professionnels de la santé. On est censé leur faire confiance. Enfin, on m'a toujours dit qu'ils savaient mieux que moi, de toute façon. Hein. Ils ont fait des études, ils savent mieux, donc ben, il faut faire ce qu'ils disent, quoi.
Ouais, c'est ça le grand
chiffre. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce on a fait une séance, on s'est vu avec ma doula. Je ne sais pas combien j'étais enceinte, mais j'ai commencé à l'avoir, j'étais à peu près 13 semaines enceinte de 13 semaines. Et je disais, mais j'ai l'impression que je suis en colère, je me rebelle contre le système. Et vraiment, elle était toute contente. Ça lui a fait plaisir. Mais j'avais vraiment ce sentiment de rébellion pendant que j'étais enceinte, de me dire, non, mais moi, je ne vais pas faire ce qu'on me dit. Ça fait, je fais ce qu'on me dit depuis 32 ans, là, ça suffit, c'est bon. Vous n'allez pas me prendre mon accouchement, c'est moi qui décide. Vraiment, ça m'a empowered, quoi.
Ouais, c'est ça, ça a été ton chemin de réappropriation.
C'est ça, voilà, complètement. Je me suis réappropriée tout, mon corps, mon esprit, ma volonté. Et même si maintenant, je n'ai pas l'impression que ça m'a beaucoup changé, mon mari il me dit, t'as changé quand même, tu ne t'en rends pas compte, mais vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé en toi, tu n'es plus la même personne, tu as plus la niaque maintenant.
Ah oui, en tant que grand-mère, on est maintenant... nos enfants, et je pense que c'est... Oui, ça nous change, c'est sûr, ça nous transforme de toute façon toutes, et encore plus, différemment, si tu fais ce chemin de réappropriation de ton autorité, de ta souveraineté.
C'est ça.
Alors vas-y, raconte-nous cet enfantement.
L'accouchement. Alors, l'accouchement, ma sage-femme m'avait dit que, vu que c'était mon premier bébé, il ne fallait pas que je m'attende que le bébé arrive à 40 semaines de gestation. Donc, du coup, je suis arrivée à 40 semaines de gestation. Je me suis dit, de toute façon, on m'a dit que...
Elle t'avait préparée à ce que ça dure plus.
Maintenant, voilà, j'étais préparée à ce que ça dure plus, déjà. Sauf que, je suis arrivée à 41 semaines, ça commençait à faire un petit peu long, là. J'en avais vraiment marre. Les émotions, c'était... oh là là, des hauts, des bas. Alors, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et puis après, j'étais contente. Enfin, c'était... la semaine la plus longue de ma vie, je crois, parce que j'étais vraiment excitée d'avoir mon petit bébé. Et puis, elle s'est fait attendre pendant 11 jours après la date qu'il m'avait donnée.
Attends, en plus, la date en Australie, c'est aussi 40 semaines ?
Ouais.
Ouais, donc c'est 7 jours avant la France déjà. Donc, en fait, au final...
Pour la France, c'est 39 ?
C'est 41 en France.
41 en France ?
Ouais.
D'accord. Non, mais ici, c'est 40.
Ouais, quand même.
En hôpital, ils te laissent aller jusqu'à 42, mais en général, non, quoi. À partir de 40 semaines, ils commencent à...
Ah oui, la date de péremption.
À insister pour faire une induction. D'ailleurs, j'avais prévu mon accouchement à la maison, tout ça, mais on a toujours... l'hôpital sait qu'on existe et qu'on est enceinte. On est enregistré à l'hôpital quand même, au cas où il y a un transfert, qu'ils aient quand même nos détails médicaux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas obligé. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en leur disant, oui, mais je ne viens pas venir accoucher. De toute façon, je fais un accouchement à la maison. Et à 40 semaines, ils m'ont appelé. À 40 semaines et 5 jours, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital en me disant, il est né ce bébé. Je dis, non. Ah, alors, il est en retard. Je dis, non, il n'est pas en retard. Laissez-moi tranquille, au revoir.
N'importe quoi.
Ma sage-femme, je sais pas. À partir de 40 semaines, on se voyait une fois par semaine. Donc, elle m'a vue à 41 semaines, pareil. Tout va bien, on attend. On attend. Juste pour la petite histoire, dans leur statistique de cette année... la plus longue gestation, c'était 43 semaines et un jour. Et ils ont attendu.
On parlait de Pre-Birth Society, Yolande Norris-Clark, elle a eu ses bébés à plus de 44 semaines. Alors, ça va paraître fou de dire ça à l'antenne, mais c'est juste qu'on a tellement normalisé des dates qu'on n'a plus aucune idée quel est le range du normal, enfin, quelle est l'étendue.
Ben, c'est ça.
Ouais. Et on a pathologisé les durées de grossesse. Ça n'a aucun... Enfin...
Alors que ben, si on laisse les choses se faire, ben, il va sortir le bébé, hein, il ne va pas rester là indéfiniment. Hein, voilà.
Normalement, il n'y aurait aucune raison de déclencher une naissance si tout va bien. Mais en fait, on ne contrôle pas, on décide que la date, c'est la date. Et... enfin bon, bref, ça paraît tellement oui. décalé par rapport à l'unicité de chacun physiologiquement. Et... bon.
Oui, c'est ça. Et donc voilà...
Donc, le temps passe, tu es très émue.
Le temps passe. Du coup, bon, on s'en fout des dates, mais bon, 40 semaines plus 11 jours, donc voilà. On va se coucher un samedi après avoir passé la journée chez mes beaux-parents qui habitent pas très loin. Tous les jours, on allait marcher, puisque bon, Matt a pris un congé, il avait un congé paternité. Donc, il avait une semaine avant, une semaine après ma date, entre guillemets, parce que j'ai dit non, mais prends pas à partir de la date, ça va pas, on va perdre du temps là. Et du coup, il était quand même avec moi pendant une semaine avant que j'accouche, mais au final, c'était sympa, parce que moi j'étais en fin de grossesse, hein, j'en avais marre, il s'occupait de moi, et puis tous les jours, on allait marcher tous les deux, tranquillement, on faisait notre petit tour, on allait promener. Donc, vraiment, en fait, ça nous a permis. Ouais, nous retrouver que tous les deux pendant une semaine avant que bébé arrive, donc c'était ça s'est très bien goupillé, c'était sympa. Et du coup le samedi on va chez mes parents, on passe la journée là. Le jour d'avant avait été très difficile, j'avais été beaucoup pleuré, j'étais très émotionnelle, j'avais vraiment envie qu'elle s'en aille, voilà, parce que ben ça commençait à être pas très confortable. J'ai eu une grossesse qui était très bah, très facile, à part la fatigue et la nausée au premier trimestre. Vraiment, ça s'est passé très bien. Bon, sur la fin, quand même, j'avais mal partout.
Mais je crois que la plupart des femmes... Ouais.
Voilà, mais bon, 40 semaines, là, ça commençait à... Il y en a qui sont très inconfortables avant. Mais moi, je n'étais pas habituée, voilà, vraiment, là.
C'est long, la fin.
C'était long, c'était très long. Et bah, on rentre à la maison. Et puis, j'avais eu des petites contractions... à partir de 40 semaines, des petites contractions, en disant « Ah, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. » Bah non, en fait, ça s'arrête, et puis la vie continue, etc. Donc, vraiment, quand ça a commencé, j'ai su que ça avait commencé après, quand ça s'est intensifié, mais au début, j'étais là « Bon, ça va faire comme la dernière fois, ça va s'arrêter. » Sauf que ça ne s'est pas arrêté, ça a commencé à... On allait se coucher tranquillement, et puis bon, vers 23h, j'étais couchée dans le lit, puis je me suis réveillée, je suis là « Oh, il se passe quelque chose là. » Du coup, j'ai regardé l'heure et tout. Puis j'avais une application sur mon téléphone. Du coup, j'ai commencé à mesurer. Et puis, je me suis dit, oh, d'accord, bon, ça a l'air régulier. Mais bon, ça faisait pas plus mal que ça, quoi. Ça allait. Donc, je suis restée couchée tranquillement pendant une heure. Quelque chose comme ça. Après, j'ai appelé ma sage-femme. J'ai dit, écoute, j'ai des contractions, et puis bon, elle a entendu au téléphone que j'étais pas en train de hurler encore, enfin bref, que je supportais bien. J'étais pas. Après, les sages-femmes, comme ça, par expérience, elles savent autant de ta voix, comment tu arrives à leur parler, où t'en es. Enfin,
là, si t'arrives à leur parler tout court.
Si t'arrives à leur parler tout court, c'est que ça va, quoi. Donc, du coup, elle m'a dit bon, écoute, je note. Mais rappelle-moi quand tu veux que je vienne, elle m'a dit. J'ai dit, ok, bon. Bah. L'inconnu, premier enfant, complètement inconnu, quand je veux qu'elle vienne, je sais pas. Bon. Puis, ça a commencé à s'intensifier un petit peu. Et j'ai attendu une heure de plus. Genre vers 1h du matin, quelque chose comme ça. Je suis allée, bon, là, ça commence quand même. Ah, ça fait mal quand même. Bon, je me lève. Je réveille Matt, je dis bon, à mon avis là, à mon avis c'est parti. Du coup, je suis allée dans la douche, j'ai pris une douche chaude, je suis restée sous la douche pendant un petit moment. Après, je suis sortie de la douche, j'ai traîné mon ballon dans la salle de bain, et puis je m'assieds dessus, et puis je bougeais, je m'appuyais sur le plan de travail, et puis bon, ça commençait à devenir intense. Et du coup, j'ai appelé ma doula, j'ai dit bon, Michel. On est bon là, tu peux venir, parce que je sais qu'elle habite en plus à 45 minutes de route, donc en plein milieu de la nuit. Donc elle m'a dit, bon, bah, très bien, j'arrive, je me prépare, je m'habille et je saute dans la voiture, j'arrive. Et puis, j'avais pas rappelé la sage-femme encore, j'attends, et puis ça commence à. Je commence à rugir un peu, ouais, c'était des rugissements un peu, je dirais. Je fais, bon, là c'est bon, hein. J'envoie un texto à la sage-femme qui m'a dit juste envoie-moi un texto. Et du coup, j'envoie un texto à ma sage-femme et elle me. Je ne sais pas si elle m'a répondu, j'imagine qu'elle l'a lu puisqu'elle est venue. Mais à partir de là, c'était vraiment. J'étais en travail actif. Je ne sais pas si on est ça en français.
Ouais, oui, mais c'est pas forcément. Ouais, c'est des mots qui ne paraissent pas très.
Active labor.
Bon. C'était dans le processus, c'était dans les sensations.
Voilà, c'est ça vraiment. Et bon, à partir de là. La notion du temps, je sais à peu près parce que j'ai demandé les notes à ma sage-femme après pour savoir comment ça s'est passé tout ça. Mais du coup, moi, pendant que j'étais allée sous la douche et que j'étais dans la salle de bain, Mathilde a gonflé, on avait la piscine qui était prête, tout qui était prêt. Donc Mathilde a allumé les petites lumières, il gonfle la piscine, commence à la remplir et puis bon, moi je fais. Je fais ma vie, il vient me voir de temps en temps, il m'amène à boire, il me demande de quoi j'ai besoin, il retourne voir la piscine, enfin bref. Ça se passe, ma doula arrive, là je suis déjà dans la zone. Quand elle arrive, je me souviens qu'elle est arrivée, et puis elle vient me chercher, enfin, j'ai fait... J'étais salle de bain, douche, toilette, salle de bain, j'étais vraiment dans mon petit coin de la maison. Et puis, Madoula, elle me vient voir pareil, elle me met à boire de temps en temps, me tire ma main, etc. Elle me dit, il y a la piscine qui est prête, si tu veux. oui, ça m'intéresse. Du coup, je me déplace jusqu'à la piscine. Et puis, bon, là, ça commençait vraiment à devenir vachement intense. Et puis, j'ai quelques photos et je me souviens, j'étais sur l'espèce de tapis de gym qu'on avait mis par terre à côté de la piscine avec Matt derrière moi, et je m'appuyais sur lui pendant les contractions, et vraiment, c'était difficile, ça devenait vraiment, vraiment intense, et ça devenait difficile à gérer, et bon, bah, du coup, je saute dans la piscine, je rentre dans la piscine, et là, mais j'ai l'impression, le soulagement instantané, j'avais l'impression de revivre, vraiment, ça m'a enlevé la pression de partout. Et les contractions, bah, elles ont continué à venir, bien sûr, mais c'était tellement plus facile à gérer. Bah, du coup, a priori, selon les notes, je suis rentrée dans la piscine vers 3h30, 4h du matin. Et bah, j'y suis restée pendant un moment. Donc, j'ai les contractions bah, qui devenaient de plus en plus intenses, bien sûr. Et à chaque fois, en fait, c'est marrant, j'ai l'impression que la manière dont j'ai géré la douleur, c'est que bah, la douleur, elle augmentait jusqu'à un point où je me suis dit, là, j'en peux plus, c'est pas possible, je peux pas gérer plus douloureux que ça. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau, qui clique. Et puis, ben, celles d'après, elles sont plus douloureuses, mais ta tolérance, en fait, elle augmente avec. Et j'ai continué comme ça. Vraiment, je me souviens de rien, je me souviens juste. Ma doula qui me met une paille dans la bouche pour que je boive entre temps. Il y avait une serviette, il me mettait des serviettes froides sur la figure. Je me souviens de tenir des mains et puis changer de position. Alors, un coup, j'étais sur le ventre avec mes bras sur le côté de la piscine avec ma tête posée sur mes mains. Après, j'étais assise dans la piscine avec le dos sur le bord. Vraiment. Même sur le côté, des fois, vraiment ce que mon corps. Là, dans la position où j'étais le mieux, et puis quand une position ne me convenait pas, ben, je tournais jusqu'à ce que je sois plus confortable. Et à un moment donné, ben, j'ai senti un pop, et c'était ben, la poche des os qui s'était rompue toute seule dans l'eau, comme ça. Donc, du coup, j'ai senti ça, je le dis à ma sage-femme. Donc voilà, ben, j'ai aucune notion du temps, mais je sais que ben, il s'est passé ça à peu près. Et quand la poche des os s'est rompue, elle a dit, bon, bah, ça va devenir plus intense à partir de maintenant. plus dense que ça. Ah bon ? Je suis pas prête, hein, ça va être... Et là, effectivement, c'est devenu plus intense. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Ouais, je pourrais le retrouver, mais la notion du temps, je l'avais pas. Et là, vraiment, j'ai eu des douleurs qui étaient dans le dos après. Et ça, c'était encore différent. C'était vraiment, vraiment désagréable, mais à chaque fois, ben, et je respirais. Ben, du coup, j'avais fait de l'hypnobirthing aussi en préparation, donc j'utilisais ces techniques-là, et principalement les techniques de respiration qui nous apprennent. Et bon, du coup, ça m'a vraiment aidé. C'est vraiment respirer quand tu es au pic de la contraction en me disant, bon, voilà, c'est. Je peux faire ça pendant une seconde, je peux faire ça pendant deux secondes, je peux faire ça pendant trois secondes, tout va bien. Et puis, ben, au bout d'un moment, ben, la contraction, elle redescend et on a survécu, quoi. Et puis, on fait ça une fois, on fait ça deux fois. Et puis ça... Là, on ne va pas dire que ce n'est pas sans douleur. Hein. C'est douloureux, c'est extrêmement douloureux, mais c'est gérable. Et puis, voilà, après, j'en suis arrivée au point, je me souviens encore clairement, où je me suis entendue dire « je ne vais pas pouvoir faire ça pendant beaucoup plus longtemps ». J'ai commencé à dire « ah ben je comprends pourquoi les femmes veulent la péridurale », sans la réclamer, mais vraiment en me reconnaissant que « ah oui, d'accord, c'est pas de la rigolade ce truc quand même ». Et a priori, c'est très commun, c'est le signe que ben c'est…
La transition.
Et là, ben, ma sage-femme, qui était toujours à côté, hein, qui... Vous voyez, des fois, quand j'étais au sommet de la contraction, je me débattais un peu, que je la résistais, mais du coup, rien qu'avec sa voix, elle me disait de respirer, elle me disait de me laisser aller, quoi. Et rien que d'entendre sa voix qui me disait ça, ça m'a beaucoup aidée, en plus, du coup, à me recentrer au lieu de m'éparpiller. Il y a quelques contractions où j'étais vraiment j'avais l'impression d'être un poisson qui se noie, quoi, enfin un poisson qui se noie, ça, en dehors de l'eau, le poisson qui frétille dans tous les sens, qui sait pas vraiment j'avais l'impression, je me sentais en détresse un peu, mais vraiment elle m'a aidé à me recentrer et du coup bon du coup ça allait. Et ben, à un moment donné, ben, les contractions continuaient de venir, sauf que ben, quand j'étais au sommet, mon corps s'est mis à pousser tout seul. Bon, mon corps savait que c'était le moment de pousser, donc ben, et ben, j'ai poussé. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai poussé pendant presque 2 heures, et ça avançait pas plus que ça, quoi. Enfin, on voyait pas la tête qui sortait, même pas le début de quoi. Donc, à un moment donné, ma sage-femme, qui m'a toujours pas touchée, pas d'examen vaginal, rien du tout, elle a vérifié le cœur, et c'est tout ce qu'elle a, et ma tension aussi, elle vérifiait mon pouls et le cœur du bébé, et c'est tout ce qu'elle a fait pendant tout le travail. Et elle me dit, mets ta main, va sentir ce qui se passe en bas. Je mets ma main, j'ai vraiment l'impression de rien sentir, c'est mou, quoi. Du coup, j'ai dit, mais je sens pas, je sens rien. Et puis, bon, ben, on continue. Elle vérifie le cœur, toujours. Bébé, pas de problème, tout à fait normal. Et puis, ben, au bout d'un moment, je pousse, et là, je sens que ben, y a quelque chose qui se passe quand même. Et là, même pas une minute après, je pousse, il y a vraiment quelque chose qui sort, et la sage-femme, gentiment, elle me regarde, bon, Fanny, en anglais, bien sûr, le bébé est en siège. Il n'y a pas de problème, mais juste je le dis, le bébé est en siège. Et en fait, bah, du coup, j'avais poussé des fesses et une jambe qui était tombée, du coup. Et je me suis retrouvée avec voilà, une jambe qui était sortie et le haut des fesses. Et à ce moment-là, j'ai senti que l'eau, elle m'aidait pas. Ça faisait flotter le bébé et ça a appuyé sur mon périnée. C'était pas agréable. Et à ce moment-là, je commence à me lever pour sortir de la piscine. Juste à ce moment-là, ma sage-femme me dit « il faudrait que tu sors de la piscine ». Donc vraiment, c'était synchro. Je suis sortie, je me suis mis à quatre pattes sur le le tapis de gym qui était à côté de la piscine. Donc, elle m'a dit que le bébé était en siège et elle était née 5 minutes après. Donc, vraiment, ça a été la poussée d'après, l'autre pied est sorti. La poussée d'après, l'autre bras est sorti. La poussée d'après, elle a aidé l'autre main à sortir parce que, bon, elle me l'a dit après. Moi, j'en savais rien. Moi, j'étais dans la zone. Le bébé, il a commencé à avoir une couleur un peu pas super, quoi. Le bébé devenait un peu pâle. Et après avoir aidé la main à sortir, il se trouve que la tête n'était pas en position optimale. Pour sortir un bébé en siège, il faut que le menton soit collé au torse pour que ça puisse passer dans le canal. Et elle avait la tête, le menton relevé. Donc, je ne sais pas si... sur l'image quand même. Du coup, ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a appuyé sur les épaules pour faire bouger la tête, que le menton soit collé au torse, et du coup, ben, le bébé est sorti. Donc voilà, elle était... elle n'a pas pleuré tout de suite, elle était un peu... Elle était sous le choc, en fait, hein, compréhensible. Hein. Moi aussi, j'étais sous le choc. Elle est sortie, elle l'a mis entre les jambes. Moi, je me suis relevée, elle a attrapé, elle l'a frotté un peu. De suite, elle a repris des couleurs, elle a commencé à réagir, à bouger. Et moi, a priori, du coup, instinctivement, je lui ai soufflé dans le nez et la bouche une fois. Et bah, du coup, à partir de là, elle était... c'était bon, elle a commencé à pleurer, elle était contente. Et ça, vraiment... du coup, on en a reparlé après avec ma sage-femme, mais c'est vraiment le côté... j'étais intuition 100%, là. J'étais...
L'instinct.
Je savais pas, j'ai pas fait le choix conscient de lui donner une respiration, quoi. C'est vraiment... On m'a mis ce bébé dans les bras et j'ai fait ça, quoi. Je sais pas. J'ai même une photo, d'ailleurs. Et voilà. Et elle était là. Et elle était... Et tout allait bien. Donc, pour la petite histoire, encore sur le... Je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est de l'intuition. Bon, j'aime bien me dire que c'est de l'intuition ou que les choses se sont alignées en ma faveur. Mais la sage-femme que j'ai, qui était avec moi, elle se passionne pour les naissances en siège. Elle n'a pas paniqué du tout. Donc, ça s'est trouvé que, ben, je ne sais pas, j'aurais eu une autre sage-femme. Elle aurait appelé une ambulance, je pense que j'aurais été transférée parce que c'est pas considéré dans le...
Peut-être pas quand le pied...
Dans le domaine de compétences. Les sages-femmes en Australie, elles n'ont pas le droit.
Elles n'ont pas le droit comme en France, mais peut-être qu'une fois que le pied est sorti quand même...
Non, voilà. Non, ça c'est justifié. Si tu le sais à l'avance, tu ne peux pas. Oui, voilà. Si c'est surprise, c'est bon. Mais après, je sais que... Je pense que, en discutant, que d'autres sages-femmes, elles auraient peut-être paniqué parce que c'est pas commun de voir ça.
Un pic de stress pour que tout après soit emboulé.
Bah, s'ils avaient, probablement pas, je sais pas. Bah, s'ils avaient été diagnostiqués entre guillemets à l'avance.
Tu as eu de la chance.
Tu tentes même pas les accouchements par voie basse quand le bébé est en siège. Hein.
Mm-hmm. Tu as eu de la chance de pas savoir.
Voilà, mais c'est ça, j'ai eu de la chance de ne pas savoir et j'ai eu de la chance que...
De tomber sur quelqu'un.
Ma sage-femme, c'était celle qui était formée en plus. Donc du coup, vraiment, tout s'est passé merveilleusement bien. Voilà, c'était... vraiment, moi, je suis sortie de cet accouchement, je me sentais... une déesse de la fertilité, quoi. J'étais le pouvoir, je me sentais la femme la plus forte du monde, quoi. J'étais c'était fort, quoi. C'était sauvage. Je dis wild en anglais, mais c'était vraiment retour aux racines. J'ai pas le mot en français. Vraiment. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une vergeture juste au-dessus de mon nombril et ça a craqué en X, en fait. Du coup, je dis que c'est ma petite cicatrice de Xena. Xena la guerrière. Du coup, je suis fière, ma petite vergetue, là. Ça me fait plaisir, ça me rappelle le pouvoir de mon corps et comment... Et de quoi j'étais capable, quoi, parce que, ben, il y a... J'ai vraiment l'impression qu'il y avait que moi qui y croyais, enfin, pas que moi, mais... Et moi, mon mari, ma doula et ma sage-femme, quoi. Après, les autres, ils croyaient que j'étais folle. Parce que j'avais annoncé que j'allais accoucher à la maison, qu'on planifiait un accouchement à la maison, et les potes, ils disaient toujours « Alors, t'as fait ton sac pour l'hôpital ?» Vraiment, ils avaient quand même occulté le fait que « Non, mais j'y vais pas à l'hôpital. » Et puis, j'ai pas fait de sac, d'ailleurs. Je voulais pas tenter le destin. J'y crois pas particulièrement, mais je voulais pas...
Oui, non, tu t'es pas...
Je sais pas, si je vais à l'hôpital, Mathieu rentrera à la maison, il fera le sac. Hein.
Ouais, tu voulais pas te préparer. Ouais, c'est bien.
J'avais vraiment pas envie. Enfin, oui, voilà. Et après l'accouchement, du coup, ils m'ont aidé à me déplacer du matelas de gym par terre, et j'avais fait un petit nid dans mon salon, où j'avais mis un matelas par terre à côté du canapé, où je vraiment fais mon petit cocon. Du coup, je me suis installée là, et puis après, c'était pas très très confortable, parce que ben, le cordon était un peu court, en fait. Donc du coup, j'ai pas réussi à la remonter pour essayer de la faire téter. C'était pas super confortable, mais allongée tranquille. Bon, on a attendu que le placenta fasse son truc de manière physiologique. On était parti sur ça. Et là, vraiment, je m'y attendais à avoir accouché. C'est bon, ça y est, c'est fini. En fait, c'est fini. Alors, j'ai été déçue que ça continue. Du coup, j'ai eu des contractions encore et c'était encore douloureux pour faire sortir le placenta. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai fait une hémorragie. Donc, on a attendu une heure, et puis au moment où on pensait que le placenta sortit, j'ai sorti un énorme caillot de sang, en fait. Et bon, la sage-femme a estimé qu'on était à peu près à 1 litre de sang en moins, donc ça, c'est pas négligeable. Donc à ce moment-là, elle m'a dit « Écoute, moi, là, tout de suite, c'est quand même un gros caillot que tu as sorti. Il n'y a plus de sang qui va au bébé. Le bébé le cordon a arrêté de battre, il est tout blanc, il n'y a plus de problème. Donc, si je te fais une injection maintenant, ça ne va pas aller dans le bébé. » Elle m'a expliqué le plus rapidement possible, parce que bah, quelque part, il y avait un petit peu d'urgence quand même, mais quand même, elle a pris le temps de me dire pourquoi elle voulait faire. Elle m'a fait une injection de
Saint-Ossin.
Je ne sais pas comment en français, c'est Saint-Ossin en anglais. Pour aider le placenta à sortir, et ben, elle a utilisé un peu de traction aussi. Et bon, pour la petite histoire, du coup, mon placenta finalement est sorti, mais j'avais un placenta bilobe. Pas comment du tout, d'ailleurs, ma sage-femme était très intéressée, elle a passé un moment à regarder. Donc, sa théorie, elle pense que justement, les placenta bilobes, quand ils se décollent, ils se décollent pas de manière en un bloc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un lobe qui a dû se décoller et le sang s'est commencé à coaguler derrière et ça a participé à l'hémorragie. Cela dit, ben, voilà, une fois que le placenta était sorti, l'hémorragie s'est arrêtée d'elle-même et il n'y a pas eu besoin de transférer. Elle m'a demandé quand même si je voulais aller à l'hôpital, comment je me sentais, tout ça. Et bon, ben, clairement, j'avais pas envie d'y aller, donc je saignais pas. Elle est restée avec moi pendant plusieurs heures après. Elle est née vers 10h30, à 15h30, elle était encore là. Et voilà, après, bon, ben, voilà, elle a essayé de m'aider à me lever pour aller aux toilettes, parce que c'est le signe que ça va. Et j'arrivais pas à me lever, j'avais des vertiges, tout ça. Donc, bon, après, pareil, on a discuté des options, de ce qu'on pouvait faire. Il y avait l'option d'aller à l'hôpital, il y avait l'option de mettre une sonde urinaire et de rester à la maison. Et c'est ce qu'elle a fait, du coup. Elle m'a posé une sonde. Mais voilà, je regrette pas du tout cette décision, puisque ben, du coup, elle est revenue le lendemain, elle a enlevé, et puis après, j'ai continué à faire mon postpartum à la maison. Enfin, je sais pas ce que c'est de pas le faire à la maison, donc je sais pas comment ça aurait été à l'hôpital, mais vraiment, j'étais dans mon petit cocon, j'avais mes affaires, j'avais mes petits trucs préparés, j'avais la famille qui venait m'amener à manger, ma doula qui venait me boire, ma télé quand j'avais besoin, mon bébé sur moi, voilà, dans mon cocon, c'était vraiment ça va vraiment bien, et je l'imagine pas autrement. Ce sera à refaire, même en prenant en compte que bah, j'ai fait une hémorragie quand même, et que bah, ça a compliqué un peu les choses par rapport à l'allaitement plus tard, que bah, je n'aurais pas fait les choses différemment après. Hein. C'était à refaire, je reprendrais les mêmes décisions avec les mêmes personnes.
Et donc maintenant, voilà. Tu aimerais reprendre ce chemin? Tu peux me parler aussi de tes projets, enfin, peut-être de désir d'accompagner d'autres femmes dans ce parcours.
Oui, ben moi, j'avais déjà commencé à penser à ça avant ma grossesse. Ben suite à cette conférence d'ailleurs dont je parlais au début, hein, qu'on discutait, que d'où là le concept, je trouvais ça vraiment intéressant d'accompagner des femmes. J'ai vraiment cette idée de la communauté de femmes qui s'entraînent, qui le concept me plaît beaucoup, les valeurs sont alignées avec moi, et du coup ça me taraude. J'ai commencé à penser à ça, j'ai fait une formation, et voilà, après je suis terrifiée à l'idée de me lancer, et je pense que je suis pas prête, je suis encore dans ma bulle, elle n'a pas encore 7 mois, j'ai ouais, encore beaucoup à apprendre, voilà. Je peux pas. Mais c'est vraiment en mûrissement, cette idée-là. Après, moi, ce dont j'ai manqué, c'est de préparer mon postpartum, parce que je m'étais dit, je ne pensais pas que ça serait si difficile. Et concrètement, si l'allaitement n'avait pas été si difficile, ça se serait super bien passé. Parce que ben, j'ai été soutenue, que j'avais ma doula qui venait une à deux fois par semaine. Il y a la mère de Matt, du coup, qui venait, elle nous faisait à manger, etc. Voilà, on a vécu dans notre petit cocon, sur mon petit matelas, dans le salon, dans notre petite bulle, pendant quelques semaines. Et puis, petit à petit, après, on s'est déplacé, on est retourné dormir dans la chambre, et puis voilà, la vie a repris son cours, ben, jamais comme avant bien sûr, mais les choses évoluent au fur et à mesure qu'elle grandit, et voilà.
Et puis ben alors j'espère suivre ton chemin aussi, comme doula, quel que soit le chemin que tu prendras.
Merci beaucoup.
Merci Fanny.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter et à partager le podcast pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. Un lien se trouve dans les notes. À très vite !